Chapitre 28. Lorsqu'elle aperçut enfin la ville, alors qu'elle venait d'atteindre le sommet d'une colline, Nietzsche éprouva un intense soulagement. Jetant un coup d'œil en arrière, la magicienne constata que la marée de poursuivants avait encore grossi et gagné du terrain. Avec les lames d'épée, les tranchants de haches et les pointes de lance qui brillaient faiblement à la lumière du crépuscule, la colonne ennemie ressemblait à un porc-épic géant. Le nuage de poussière qu'elle soulevait occultait l'horizon. Les cris de guerre qui montaient de cette horde sauvage avaient de quoi glacer les sangs. Même si elle n'avait pas eu le soleil couchant dans les yeux, Nietzsche n'aurait sans doute pas repéré âme qui vive dans les rues d'Alterrang. Exactement ce qu'elle voulait. Les habitants devaient rester cachés jusqu'au dernier moment. Cela dit, il n'était pas très encourageant de se sentir si seul quand on était pourchassé par des soudards enragés. Nietzsche avait indiqué à Victor et Ishak la route qu'elle prendrait pour revenir. Ainsi, les deux hommes configureraient les défenses en toute connaissance de cause. Mais avait-il eu le temps de se préparer? Les événements s'étaient tellement précipités. En approchant de la cité, Nietzsche prit la peine de glisser le bras droit dans la manche de sa robe, puis elle fit de même avec le gauche. Les rênes tenues d'une main, elle se pencha sur l'encolure de Sadine et réussit à refermer sa robe. Une minuscule victoire qui lui arracha un petit sourire. Les talons passa devant les premières maisons d'Alterrang. Même si elle connaissait un raccourci qui l'aurait conduite beaucoup plus vite jusqu'à la lisière de la cité, la magicienne était restée sur la voie principale. Ici, cette route devenait un large boulevard bordé de grands arbres. En avançant, Nietzsche repéra au pied des troncs les cocons vides de cigales. Cette vision lui rappela cette extraordinaire nuit, dans un abri de fortune, où elle avait pu dormir dans les bras de Richard. Sadine avait le poitrail couvert d'écume. Il devait fatiguer et pourtant il n'avait pas manifesté la moindre envie de ralentir. Nietzsche dut tirer sur les rênes pour que les talons consentent à galoper un peu moins vite. Ses poursuivants devaient croire qu'il la rattrapait. Lorsqu'un prédateur gagnait du terrain sur sa proie, il ne voyait plus rien d'autre. Chez les soudards de l'ordre, l'instinct de la chasse était au moins aussi fort que chez les loups. La magicienne voulait qu'ils oublient toute prudence, grisés par l'imminence de la capture. Histoire de les stimuler, elle se laissa un peu pencher sur le côté, comme si elle était blessée ou risquait de tomber. Avançant au milieu de l'avenue, elle commença de reconnaître certains bâtiments, parfois à la configuration de leurs fenêtres, en d'autres occasions à la couleur des volets. Les habitations étaient faciles à identifier, à cause des cordes à linge qui pendaient entre les balcons. Dans quelques rues latérales, la magicienne repéra des hommes tapis dans les ombres. Tous étaient armés d'un arc. Nietzsche approchait de son objectif. Mais quand elle arriva devant l'immeuble en briques, elle faillit ne pas le reconnaître à cause de la pénombre. Afin que les soldats ne les repèrent pas, les pieux liés les uns aux autres étaient couverts d'une fine couche de poussière. Quand elle les dépassa, la magicienne vit les hommes cachés au coin des bâtiments. Bientôt, ils tireraient sur les cordes pour lever les pièges.
« Attendez qu'une bonne partie des cavaliers soit passée !»
dit Nietzsche, juste assez fort pour que les citadins l'entendent. Un des types hocha la tête. La magicienne espéra qu'il avait bien compris son ordre. Si les herses se dressaient devant les premiers cavaliers, quelques-uns seraient désarçonnés et deviendraient des cibles faciles. Mais tous ceux qui chevauchaient à l'arrière auraient le temps de s'arrêter puis de se regrouper. Dans ce cas, les défenseurs auraient gaspillé leur seule chance de désorganiser la cavalerie. Il fallait laisser passer beaucoup de chevaux pour piéger leur maître entre deux séries de herses. Nietzsche regarda derrière elle. Les colosses montés sur leurs imposants destriers arrivaient au niveau du bâtiment de briques. Lorsque les 10 ou 12 premiers rangs furent passés, les défenseurs levèrent les pièges. Des dizaines de destriers vinrent s'empaler sur les pieux. Emportés par leur élan, ceux qui les suivaient ne purent pas s'arrêter. Des cavaliers désarçonnés moururent, piétinés, et d'autres furent criblés de flèches. Les archers postés aux fenêtres des bâtiments environnants faisaient mouche comme à la parade. Tous les cavaliers qui parvenaient à ralentir avant de percuter les herses devenaient des cibles idéales. Pris sous un feu croisé, ils se résignèrent à passer à la défensive. Mais quand ils levèrent le bras gauche, presque tous s'aperçurent qu'ils avaient oublié d'emporter leur rondache. Alors que les derniers chevaux percutaient les herses ou les destriers déjà blessés, Nietzsche prit l'embranchement de droite du premier carrefour qu'elle rencontra. Les cavaliers qu'on avait laissés entrer sur son ordre la talonnaient, mais ils n'étaient pas au bout de leur surprise.
Laissez-en passer la moitié,
lança Nietzsche aux hommes qui attendaient de lever la deuxième ligne de Hers. Les défenseurs obéirent. Quelques instants plus tard, les hennissements de douleur et les cris de rage apprirent à Nietzsche que l'ennemi était de nouveau tombé dans le panneau. Des citadins armés de lances vinrent embrocher les soudards avant qu'ils aient eu le temps de se relever. Les défenseurs amassèrent les armes qui ne serviraient plus aux vaincus et les retournèrent contre les soldats de l'ordre encore debout. Les cavaliers survivants, furieux de s'être laissés prendre deux fois, décidèrent qu'il n'y aurait pas de troisième désastre. Se séparant du gros de la colonne, ils s'engouffrèrent dans des rues latérales, à droite et à gauche. Les hommes qui poursuivaient Nietzsche n'eurent pas le temps d'aller bien loin, et encore moins de se demander s'il n'aurait pas été plus judicieux de briser la charge. Juste après le passage de la magicienne, une troisième ligne de herse se dressa devant les guerriers ennemis. La scène qui s'était déjà produite deux fois recommença, avec son cortège de geysers de sang, de cris de rage, de hennissements d'agonie et d'appels au secours. Au même moment, les cavaliers qui avaient cru malin de quitter l'avenue se retrouvèrent bloqués par les mêmes pièges de fer. L'avant-garde de l'armée ennemie était prise dans un étau qu'elle ne parviendrait pas à desserrer. Dans un vacarme de fin du monde, d'autres destriers vinrent s'empaler sur les pieux et de nouveaux cavaliers volèrent dans les airs, désarçonnés par leurs montures blessées ou folles de terreur. Là encore, des défenseurs armés de lances vinrent finir le travail. D'autres se postèrent aux endroits où la ligne de Hers n'avait pas tenu. Décidés à boucher les brèches, ils se campèrent sur leurs jambes, lances levées. D'autres défenseurs contre-attaquèrent. Parfaitement inattendu, cette manœuvre fut couronnée de succès au-delà de toutes les espérances de Nietzsche. Effrayés et blessés, les destriers se laissèrent d'abord éventrer par les citadins, puis ils tentèrent de fuir, aggravant encore la panique qui régnait dans les rangs de l'ordre impérial. Les archers vinrent également se mêler au jeu, poussant à son paroxysme l'hystérique désespoir des attaquants. Sans la mort de Cronos, l'ennemi n'aurait jamais attaqué si bêtement. Nietzsche le savait. Redoutable en terrain découvert quand il s'agissait d'enfoncer des défenses classiques, les destriers n'étaient pas adaptés aux combats de rue. Manquant de place pour manœuvrer, les cavaliers auraient été à leur désavantage même s'il n'y avait pas eu les pieux. De plus, les défenseurs disposaient de trop d'endroits où se cacher. Lors d'un siège classique, la cavalerie aurait servi à écraser les lignes de défense postées devant la ville. Après l'entrée de l'infanterie dans la cité, les forces montées auraient poursuivi et abattu tous les citadins assez lâches pour tenter de s'enfuir. Si les officiers supérieurs avaient pu contrôler la situation, il n'y aurait jamais eu d'absurde charge dans l'avenue la plus facile à défendre d'Alterrang. C'était exactement pour ça que Nietzsche avait pris le risque d'aller tirer un coup de pied dans la fourmilière de l'ordre. La stupidité de la tactique spontanée des attaquants devenait de plus en plus évidente. Partout, des défenseurs qui n'avaient aucune expérience du combat massacraient sans peine des vétérans aguerris. Voir tant de cadavres d'hommes et de chevaux finissait par donner le tournis à Nietzsche, et la puanteur du sang lui retournait l'estomac. Remarquant qu'une petite colonne de cavaliers s'engouffrait dans une ruelle afin d'échapper au massacre, la magicienne propulsa sur le cheval de tête une lance de pouvoir qui lui cisailla les jambes au niveau du boulet. Le pauvre animal s'écroula, entraînant dans sa chute presque tous les destriers qui le suivaient. Quelques étalons parvinrent à sauter au-dessus de l'obstacle et à continuer leur chemin. Pas très longtemps, car des défenseurs les guettaient à la prochaine intersection. Nietzsche décida de revenir en arrière pour aider les défenseurs des deux premières lignes de Hers à éliminer tous les cavaliers de l'ordre. Alors qu'elle contournait un pâté de maison, elle se trouva face à un petit groupe d'ennemis qui était parvenu à passer à travers les mailles du filet. La magicienne leur envoya une boule de feu des plus classiques, qui explosa au milieu de la colonne, embrasant aussitôt les hommes et les bêtes. Les flammes se propagèrent à une vitesse folle, ne laissant pas une chance aux soudards de Jagang. Nietzsche continua son chemin et déboula enfin dans la zone entre la première et la deuxième ligne de défense, où étaient piégés le plus de cavaliers. Les citadins étaient passés à l'attaque et ils ne faisaient pas de quartier. Désorganisés, incapables de briser les mâchoires du piège et submergés par le nombre, pour une fois c'était leur tour, les soldats de Jagang affrontaient des hommes dont la détermination les stupéfiait. Accoutumés à intimider des civils désarmés puis à les massacrer, les soudards ne savaient comment réagir face à des combats de la liberté. À la lumière mourante du crépuscule, Nietzsche repéra Victor, qui faisait des ravages dans les rangs adverses avec sa masse d'armes personnelles. La magicienne talonna Sadine afin de rejoindre le forgeron.
« Victor !»
cria-t-elle. L'ami de Richard ne parut pas ravi de cette interruption.
« Quoi ?»
rugit-il. Nietzsche approcha un peu plus.
« Des fantassins suivent la cavalerie. C'est contre eux que se jouera l'issue de la bataille. Il ne faut surtout pas qu'ils renoncent à attaquer ce soir. Au cas où ils auraient des doutes sur la tactique à employer, je vais leur fournir une motivation irrésistible. »«
Parfait. Nous les attendrons de pied ferme. »
Quand les fantassins seraient entrés en ville, ils n'auraient aucun moyen de rester groupés. Dès qu'ils se seraient éparpillés dans les rues, les défenseurs s'arrangeraient pour qu'ils se divisent en très petits groupes, puis des archers les attaqueraient, les poussant vers des pièges et des sites d'embuscade. Alterang n'était pas une petite ville. Une fois la nuit tombée, beaucoup d'envahisseurs seraient totalement perdus. Dans un inextricable dédale de rues, ils ne réussiraient pas à se regrouper et seraient d'autant plus vulnérables à toutes les attaques. Habitués à être les chasseurs, ils deviendraient le gibier et ce rôle ne leur conviendrait pas du tout. Inévitablement, ce serait la débandade. Mais le « chacun pour soi et sauf qui peut » ne fonctionnerait pas, parce que Nietzsche avait tout prévu. Aucun soudard ne trouverait un endroit sûr dans la cité.
« Vous avez du sang partout !»
cria Victor.
« Tout va bien ?»«
Une mauvaise chute, rien de grave. Victor, nous devons en finir ce soir, ne l'oubliez pas. »
« Pressé de retrouver Richard !»
Nietzsche sourit mais ne répondit pas.
« Bon, je vais aller tirer un nouveau coup de pied dans la fourmilière. »«
Nous vous attendrons. »
Voyant que trois soldats ennemis à pied tentaient de s'engouffrer dans une ruelle latérale, Nietzsche mobilisa son Han pour lancer un sortilège très simple. Jaillissant l'une après l'autre de son poing, trois lances de pouvoir percutèrent les fuyards et les déchiquetèrent.
« Victor, encore une chose ?»«
Oui ?»«
Pas un seul ennemi ne doit s'enfuir, c'est compris ?»
Profitant d'une accalmie, le forgeron soutint quelques instants le regard de la magicienne.
« C'est compris, oui. Ishak vous attendra ici. Amenez-nous les fourmis aussi vite que possible. »«
Je n'y manquerai pas. »
Nietzsche s'interrompit et tourna la tête vers l'est. Précédé par un bruit de soufflet assourdissant, d'énormes flammes crépitaient à l'est de sa position, et ça ne pouvait vouloir dire qu'une chose.
Victor lâcha un chapelet de jurons. Se perchant sur le cadavre d'un destrier, il essaya de voir par-dessus la ligne de toit afin de savoir ce qui se passait.
« Vous n'avez pas tué Chronos ? »
demanda-t-il à Nietzsche.
« Je l'ai abattu ainsi qu'un collègue à lui. Hélas, il y avait un troisième sorcier, dirait-on. Décidément, Jagang n'a rien laissé au hasard. »
Nietzsche tira sur les rênes de Sadine.
Mais il n'a pas pu préparer ses sorciers à un combat contre la maîtresse de la mort.